Good evening and welcome to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly show for West Harts francophones and francophiles. This evening we are talking about French presidential elections, and as usual, every third Thursday of the month at 9 p.m. we will be talking exclusively in French for the next 30 minutes. So I hope you're ready to brush up your French. Let's go!
Bonsoir et bienvenue sur Bouche à Oreille, l'émission mensuelle de Radio Verulam pour les et francophiles du West Harts, présentée par Aline et Géraldine. Ce soir, nous allons bien sûr parler des élections présidentielles, dont le premier tour aura lieu dans 3 petits jours seulement, et aussi un peu des législatives qui, elles, se tiendront en juin. Mais avant cela, laissez-moi vous annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante de notre concours du mois dernier. Vous vous en souvenez peut-être, le défi que nous vous avions lancé consistait à trouver le nombre d'expressions françaises utilisées lors de notre dernière émission. Eh bien, la bonne réponse était 75, et c'est Marie-Françoise Baker-Madec qui nous a donné la réponse la plus proche.
Bravo Marie!
Elle gagne l'album du groupe Oh là là pour se régaler d'accordéon et de chansons françaises.
La chanceuse.
Elle a vraiment de la chance. Et par le plus grand des hasards, et là il faut vraiment nous faire confiance sur ce point, Marie-Françoise, qui est une auditrice assidue de Bouche à Oreille, est avec nous ce soir dans le studio pour nous donner le point de vue d'une Française de Saint-Alban sur les élections.
Nous aurons également la chance d'être en relation téléphonique avec Serge Babary, qui est président de la Chambre de commerce de Tours et aussi élu au Conseil général de Touraine. Il a accepté de répondre à nos questions concernant ces élections.
Alors, nous débutons comme toujours par l'actualité en France et ce mois-ci, nous nous concentrons bien sûr sur la politique. Alors, comme on peut s'y attendre, les médias de l'Hexagone ont été saturés de campagnes présidentielles le mois dernier. Il y a eu des entretiens, des débats avec les candidats, des analyses de leurs programmes respectifs, des reportages sur les attentes des Français et des sondages d'opinion qui se multiplient au fil des jours. Alors, il n'y a rien de bien nouveau dans tout cela, vous allez me dire, pour ce qui est du contenu. Mais le grand bouleversement de cette campagne est que depuis janvier, les médias se doivent de respecter les nouvelles règles d'égalité du temps de parole et d'équité de temps d'antenne pour tous les candidats, et ce jusqu'au 4 mai 2012. En clair, cela veut dire que Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste doit par exemple avoir le même temps de parole ou d'antenne que Nicolas Sarkozy. Nombreux sont les observateurs qui constatent que ces nouvelles règles favorisent les petits partis et donc bien sûr pénalisent les plus grands. Quoi qu'il en soit, la campagne est loin de passionner les Français de l'Hexagone et il sera intéressant de voir ce qu'on en pense de ce côté de la Manche. Selon un sondage Via Voice pour Libération, 61% des Français ont trouvé cette campagne décevante et 57% l'ont trouvée ennuyeuse. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot qu'ils ont utilisé, mais en tout cas, le résultat est le même. Et 67% d'entre eux estiment qu'elle n'a pas abordé les vrais problèmes. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a de nombreux thèmes chers aux Français qui semblent avoir été absents ou très peu abordés par les différents candidats, alors qu'ils étaient au cœur des élections de 2007. On peut donner en exemple la grande pauvreté, la santé ou encore l'engorgement du système judiciaire ou l'environnement. Et même le problème de la dette astronomique de la France n'a finalement tenu qu'une place timide et bien tardive dans les débats. Alors dans ce contexte, il est fort possible que certains soient tentés de bouder les urnes dimanche et c'est d'ailleurs ce que suggère le récent sondage Opinionway qui prévoit 26% d'abstention. On en est presque au niveau record établi au premier tour des présidentielles de 2002, qui était de 28,4%, et on se souvient qu'il avait permis à Jean-Marie Le Pen de passer au second tour.
Bon, alors, et pour ceux qui vont se rendre aux urnes, pour qui vont-ils voter?
Ah, eh bien justement, tu fais bien de me le demander, on va jeter un œil rapide aux résultats des sondages de ces derniers jours. Alors, on en citera 3, celui d'Ipsos pour Le Monde qui a été réalisé le 13 et 14 avril, celui du CSA du 16 avril et celui d'Opinionway pour le Figaro du 16 et 17 avril. Alors, au premier tour, Sarkozy et Hollande distancent largement les autres candidats, quels que soient les sondages. Ils sont tous les deux à égalité avec 27% pour Ipsos et 27,5% pour Opinionway. Selon le sondage CSA, en revanche, Hollande serait en tête avec 29%, suivi de Sarkozy avec 24%. Tous les sondages donnent ensuite Marine Le Pen en troisième position avec entre 15,5% et 17%, puis viennent Mélenchon avec entre 13% et 15% et Bayrou avec 10%. Eva Joly, quant à elle, est à 2 ou 2,5% et les autres candidats aussi entre 0 et 1%. Donc ça, c'est pour le premier tour.
Et le deuxième tour ?
Alors, au deuxième tour, tous les sondages donnent Hollande vainqueur avec entre 55 et 58% des voix. Il faut bien sûr rappeler que les sondages ont des marges d'erreur plus ou moins importantes et que ceux-ci ne sont que des indications. La publication de sondages, il faut le savoir, est interdite à partir de demain minuit jusqu'au jour du scrutin. Alors, on en est vraiment au dernier résultat. Quant aux résultats, les vrais du premier tour, ils seront disponibles à partir de 20h dimanche soir. Et attention, attention, il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur l'heure, en fait, où on va obtenir les résultats. Et on sait maintenant que la police sera saisie systématiquement en cas de publication précoce des résultats. Donc attention à tous les petits malins qui veulent s'y mettre trop tôt. Voilà. Alors, pour clôturer cette rubrique, je vais vous parler de ce qui m'a laissé bouche bée.
Vas-y, c'est quoi ?
Alors, un sondage, encore un, et alors qui montre que 35% des Français ne savent pas pour qui va voter leur conjoint. Bizarre, non ?
Ça, c'est motus et bouche cousue, même au sein des ménages. Bon, alors venons-en à ce qui se passe de ce côté-ci de la Manche. Ce mois-ci, pas d'actualité culturelle, mais j'ai fait un petit tour de la presse anglaise pour voir ce qu'elle pense des élections en France. Tout d'abord, on doit dire que jusqu'à Pâques, la campagne électorale française ne faisait pas les gorges chaudes des médias britanniques. Et finalement, ce n'est que début avril qu'on a commencé à en entendre parler. The Economist a fait la couverture de son édition de la semaine de Pâques en utilisant le célèbre tableau de Manet. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est, Aline, c'est le déjeuner sur l'herbe.
Très beau.
Tu sais, la femme nue au premier plan. Et donc, il y a deux gentilshommes qui sont en train de discuter. Et ils ont mis la tête de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. C'est pas mal, la couverture. Avec un titre qui n'a pas plu outre-Manche, qui était « France in denial » ou alors « La France dans le déni ».
Shocking.
En substance, l'hebdomadaire reproche aux candidats à la présidentielle de ne pas aborder le seul sujet qui devrait concerner les Français au plus haut point, le montant effrayant de la dette publique, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui atteint presque 90% du PIB. Donc la solution qu'il propose, c'est un plan d'austérité sans précédent qui serait basé sur les réductions des dépenses publiques. Bon, l'article a soulevé une vague d'indignation chez les candidats et leurs porte-paroles, qui ont vite démenti que, évidemment, leur programme couvrait ce sujet.
Ah bah, bien entendu, bien sûr.
Et l'AFP a quand même qualifié l'article et l'affirmation de ridicule. S'en est suivie une bataille entre éditorialistes du Nouvel Observateur et celui de The Economist, mais ça n'a pas été une réaction universelle auprès de la presse française, puisque le Figaro a qualifié l'analyse du magazine anglais comme étant « sévère mais juste », et l'éditorialiste de l'Express a aussi insisté en disant que le sujet en effet de la dette publique et des réductions des dépenses publiques n'avait pas été abordé par les candidats en lice. The Economist ajoute que, bien que l'exception du modèle de protection sociale français ait visiblement aidé la France dans la crise actuelle, il semblerait qu'il n'y ait aucun candidat qui propose les réformes nécessaires pour pouvoir continuer à soutenir ce modèle. Donc, ils finissent par dire, quel que soit le candidat élu, ils n'auront pas beaucoup de marge de manœuvre, et donc les Français ne pourront faire autrement que de se serrer la ceinture. Mais étant donné que le sujet n'aura pas été clairement abordé pendant la campagne, il faut se préparer à la réaction typique des Français pour montrer leur mécontentement, c'est-à-dire descendre dans la rue de façon massive.
Je ne comprends pas qu'ils disent ça, parce qu'en France, quand même, il faut dire qu'on ne manifeste jamais, on ne fait jamais la grève. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça.
Bref, le journal conclut que Nicolas Sarkozy est le candidat le moins pire dans cette campagne. Il faut croire que malgré leur réaction indignée, cependant, le message des Anglais a fait mouche auprès de nos candidats, puisque dès début avril, on a entendu Nicolas Sarkozy parler en détail des points de son programme qui vise à placer les finances publiques sous contrôle. François Hollande, quant à lui, a choisi la relance de la croissance en Europe comme moteur de la reprise en France. Et sa position a été saluée cette fois-ci par le Financial Times, qui, dans une approche très keynésienne, insiste sur le fait que la croissance passera par la relance de la demande. Donc d'après le quotidien anglais, la politique d'austérité est nécessaire pour les pays en périphérie et en grande difficulté, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Mais les autres moins touchés, comme la France et l'Allemagne, devraient plutôt viser plus d'investissements publics pour relancer la croissance par la demande.
D'accord. Et les autres médias britanniques, alors pour quel candidat penchent-ils ?
Alors, je n'ai pas trouvé de prise de position pour un candidat plus qu'un autre, ni dans The Guardian ou The Observer. Bon, il parle de la campagne, bien sûr, mais il semble se limiter à la description des faits et des sondages. Par contre, on y apprend qu'il y a entre 300 000 et 400 000 Français établis en Grande-Bretagne, majoritairement dans Londres et ses environs, et que le consulat a enregistré cette année 80 000 inscriptions sur les listes électorales.
Alors bon, moi je suis pas très forte en maths, mais quand même, s'il y en a entre 300 000 et 400 000 qui sont établis en Grande-Bretagne et seulement 80 000 enregistrés au consulat, ça en laisse 320 000 autres. Ils votent ou ils s'abstiennent ?
Ben, on peut imaginer qu'un certain nombre quand même vote encore en France par le moyen d'une procuration. Mmh. En tout cas, ici, historiquement, la communauté française de South Kensington à Londres a voté à droite. Mais les journalistes du Guardian ont trouvé plein de contre-exemples cette année et ils écrivent que la tendance politique de nos compatriotes a sensiblement bougé à gauche depuis l'élection de 2007 et ce, dû aux nouveaux arrivants. Donc cette semaine dans le Guardian, on y trouve tout un article sur l'agressivité des candidats les uns envers les autres. Et puis bien sûr, maintenant qu'on compte, c'est le compte à rebours qui a commencé pour le premier tour, leurs propos deviennent de moins en moins courtois, remarque le journal.
Oui, bah ça, c'est pas étonnant, c'est non plus. C'est
quant au Telegraph, ses récents articles portent, par exemple, sur les hauts et les bas entre les relations entre le candidat de gauche et son ex-compagne Ségolène Royal, et puis sur le vote de l'ancien président Jacques Chirac qui irait à François Hollande plutôt qu'à son ex-premier ministre, puis rival de campagne. Bon, en synthèse, ce qu'il faut retenir de l'opinion britannique, ou plutôt des médias britanniques, sur la situation de la France, une dette publique inquiétante, des dépenses publiques les plus élevées de la zone euro, un chômage qui n'a pas baissé depuis 30 ans, des partis d'extrême droite et de gauche qui ont pris beaucoup d'importance ces dernières semaines, un modèle social à la suédoise, mais une situation budgétaire proche de celle de l'Espagne ou de l'Italie.
Bon, moi, c'est pas la Grèce. Hein. Déjà ça.
Une perte d'influence de la France en Europe au profit de l'Allemagne. Et puis, ils s'accordent tous à condamner la campagne qui tourne plus au référendum pro ou anti-Sarkozy, tout en déplorant le manque de charisme de François Hollande qui ne réussit pas à soulever l'enthousiasme du dernier président de gauche, je parle de François Mitterrand. En bref, une campagne qui ne touche pas aux sujets les plus urgents et qui en plus manque d'intérêt, donc finalement d'enjeu.
Donc ça rejoint un peu ce que je décrivais pour la France, en fait, la situation en France.
Donc ça, c'est le tableau brossé par les médias locaux. Alors bien sûr, on peut se demander, est-ce que c'est un discours anti-français venant de nos frères ennemis ou une description réaliste de la situation ? Donc c'est ce que nous allons essayer de découvrir avec Serge Babary, qui est avec nous par liaison téléphonique.
So if you've just joined us and you're wondering why we're chatting in French until 9:30 p.m. tonight, you're listening to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly show for West Hearts, Francophones and Francophiles, and we're talking about the presidential elections.
Alors nous avons Serge Babary au bout du fil. Serge est président de la Chambre de commerce de Tours et élu au Conseil général de Touraine. Bonsoir Serge et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas des spécialistes de la politique française, pouvez-vous nous expliquer brièvement comment fonctionnent ces élections à deux tours ?
Oui, alors, c'est une mécanique qui vient de loin, puisqu'il y avait une trentaine de postulants à qui il a fallu d'abord trouver 500 signatures d'élus pour qu'ils se portent candidats. Ces élus doivent provenir de 30 départements français, c'est très sélectif, pour éviter des candidatures dites fantaisistes. À la fin, il en reste 10. Et ces 10-là vont concourir donc dimanche prochain pour le premier tour. On retiendra les deux premiers qui pourront, le 6 mai, être les deux candidats ultimes, d'où sortira le choix des Français pour le futur président de la République.
Donc en fait, le premier tour permet de voter pour des personnes qui ne sont pas forcément celles qui ont une chance de devenir président.
Ah, il y a 10 candidats, donc normalement, chacun a ses chances, chacun considère qu'il a ses chances. Évidemment, il y a 2 candidats principaux, chacun le dit, la presse en particulier, les candidats bien sûr, et puis il y a après 2 autres candidats qui font une campagne assez forte, Marine Le Pen pour l'extrême droite, Mélenchon pour l'extrême gauche, et puis un peu plus loin, François Bayrou. Donc ça fait 5 candidats qui se détachent quand même un peu des autres. Pour le reste, les 5 derniers, c'est entre 0,5 et 3%.
D'accord. Alors, nous avons présenté le point de vue de la presse britannique. Est-ce que c'est une vision sévère mais juste, comme dirait le Figaro, ou est-ce que c'est complètement erroné, comme l'ont soutenu les candidats eux-mêmes ?
Alors, j'ai écouté votre revue de presse britannique. Je crois que tout y est. Il y a vraiment une position de déni vis-à-vis de la réalité économique de notre pays, de la part des candidats, mais s'ils tiennent ce langage, c'est que les citoyens français ne veulent pas admettre, entendre, accepter la situation économique assez catastrophique de la France. Alors, c'est ça la situation, et le mot du Figaro me semble correct. C'est sévère mais juste ce que disent les Anglais, et il faut l'admettre. La situation est catastrophique. 1 800 milliards d'euros de dettes, des dépenses publiques explosives. Et donc, personne n'exprime cela pendant la campagne.
Alors, quelles ont été les grandes caractéristiques de cette campagne par rapport aux précédentes ? Et puis, à votre avis, qu'est-ce qui se joue dans ces élections ?
Les caractéristiques précédentes, c'est que là, il semble qu'il n'y ait pas d'enjeu, alors qu'en fait, on voit bien qu'on est dans une période de crise aiguë, que plusieurs pays européens sont dans de grandes difficultés économiques, et la France vraiment semble isolée sur une sorte d'île à l'abri de tout. En réalité, il y a un jeu assez terrible qui se joue, c'est celui d'une sorte de référendum pour ou contre Sarkozy, ce qui fait dire au président que il n'y a pas d'égalité entre les candidats, parce que même si le temps de parole est égal pour les 10 en ce moment, à la radio officielle publique, c'est 9 contre 1. Donc ils se sentent totalement isolés et considèrent qu'il n'y a pas d'égalité de chance.
Et alors donc on a beaucoup parlé d'Europe, et quelle devrait être la position de la France finalement dans l'Europe, et puis en particulier, parce que ça nous intéresse, sa relation avec l'Angleterre ?
Pour l'instant, la position de la France voulue par le président Sarkozy, c'était le partenaire privilégié de l'Allemagne. Il est vrai que la difficulté économique ambiante, la situation même de la France risque de la ramener dans un état qui ne lui permettra pas de jouer ce rôle auprès de l'Allemagne. Donc il faut vraiment qu'elle diversifie ses centres d'intérêt et ses partenariats. Évidemment, pourquoi pas vers l'Angleterre, les relations sont tout de même traditionnelles. Je pense à Tours, ma ville, il y a deux lignes quotidiennes avec l'Angleterre, Londres et Manchester. Donc, c'est des relations qu'il faut développer, bien sûr, au sein de l'Europe.
Alors, en juin, on va de nouveau être appelé à élire les membres du Parlement. Cette fois-ci, de nouveau être appelé, pardon, à voter pour élire les membres du Parlement. Et c'est une situation un peu particulière pour nous qui vivons à l'étranger, parce que c'est la première année où nous sommes appelés à voter pour un représentant pour les Français à l'étranger à l'Assemblée. Alors, quel pourrait être le rôle de ce représentant ?
Le représentant des Français de l'étranger, il y a des grandes zones à travers le monde. Il va siéger comme les autres députés à l'Assemblée nationale. Il deviendra un législateur. L'intérêt, c'est que il y ait des représentants ainsi des Français qui sont expatriés et qui amènent une ouverture sur le monde qui semble manifestement manquer à la plupart de nos concitoyens dans le débat actuel.
Très bien. Écoutez, encore une fois, merci pour toutes ces précieuses informations. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée et puis des bonnes élections.
Merci, bonsoir.
Merci
à tous.
Beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir.
Bye.
Alors maintenant, on se tourne vers notre invitée gagnante, grande gagnante du CD Olala, c'est-à-dire Marie-Françoise Baker-Madec, qui est une Française installée en Angleterre depuis 10 ans. Et qui a accepté de partager son point de vue de Française à l'étranger sur ce scrutin. Alors bonsoir Marie, et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions avant même de savoir que tu avais gagné le CD.
Tout à fait, merci Géraldine et Aline. Merci les filles.
Alors, pour un ressortissant français qui vit en Grande-Bretagne, quelles sont les formalités nécessaires pour aller voter ? Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors, il faut d'abord s'inscrire au consulat de France, à Londres, ce qui permet d'obtenir une carte consulaire et d'être inscrit au registre des Français à l'étranger. On peut également s'inscrire sur les listes électorales du consulat de France, mais c'est une démarche indépendante et spécifique. La délivrance d'une carte consulaire ne vous met pas automatiquement sur les listes électorales du consulat. Et surtout, n'oubliez pas aussi que le consulat est considéré comme le territoire français à Londres. Donc, il n'y a donc pas de carte électorale pour l'étranger. Il vous suffit de vous munir soit de votre passeport ou de votre carte d'identité française ou bien sûr de votre carte consulaire pour aller voter.
Et c'est vrai qu'elles peuvent aussi être périmées, elles n'ont pas besoin d'être en cours de validité. C'est important aussi de le dire aux gens qui se disent « non, je ne peux pas y aller parce que ma carte est périmée ».
Voilà, tout à fait.
Et alors, bon, si on n'a rien reçu, si on n'a reçu aucune confirmation du consulat, est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Vous pouvez être peut-être inquiet de n'avoir toujours reçu aucun document, genre bulletin de vote ou carte électorale. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous possédez votre carte consulaire, celle-ci remplace la carte électorale, donc vous pouvez aller voter. Vérifiez quand même quel est votre bureau de vote, car ce n'est pas nécessairement le consulat. Dans mon cas, j'ai conservé un domicile en France et donc je suis inscrite sur les listes consulaires pour les présidentielles, les référendums, les législatives et les européennes. Mais pour toute élection locale, du genre cantonale, régionale, municipale, je vote en France et dans ma ville natale.
Alors, je voudrais quand même insister pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris que les inscriptions sur les listes électorales pour les votes de cette année ont été clos en fin d'année dernière.
C'est ouais, ça, 31 décembre.
Donc, si vous n'êtes pas précisément inscrit sur les listes et pas seulement au consulat, ne vous pointez pas avec vos cartes consulaires parce que vous n'allez pas pouvoir voter.
Ouais, c'est vrai. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Alors, Marie, donc ça fait 10 ans que tu es en Angleterre, c'est ça?
Oui, 10 ans cette année.
Bon, bon anniversaire.
Le jour du jubilé de la reine.
Oh là là, c'est pas possible.
Double saison de fêter cela.
Alors bon, évidemment, tu es ici. Comment est-ce que tu arrives à suivre cette campagne depuis l'Angleterre?
Alors, je pense que les informations sont suffisamment largement et diffusées via les médias, c'est-à-dire les retransmissions télévisées, les débats ou les informations, par exemple, des journaux télévisés comme TV5 Monde, que l'on peut capter via satellite, via la radio, les emails ou les nombreuses informations envoyées notamment par le consulat de France à Londres. Mmh. Et bien sûr, on peut aussi se documenter via les journées français parce qu'on les trouve sur Saint-Alban, évidemment. Et à mon avis, quand même, ce qui est très important, ce sont les conversations et les échanges entre membres de la famille ou les amis, mais aussi grâce aux discussions avec les Anglais.
Ben justement, en parlant d'anglais, Marie, comment ça se passe à la maison? Parce que je sais que ton mari est anglais, tes enfants sont binationaux. Alors, est-ce qu'ils s'intéressent au débat ou est-ce que finalement c'est ton affaire de française?
Bon, les enfants, d'abord, ils s'intéressent juste un tout petit peu. D'abord parce que mon aîné n'a que 10 ans et mon second a 8 ans. Donc, c'est sûr, ils connaissent Nicolas Sarkozy en étant le président, mais vraiment, ça s'arrête là. Mon mari anglais s'y intéresse à cause des très bons rapports et échanges franco-anglais entre nos familles respectives. Mmh. Il ne s'est vraiment pas fait une opinion définitive sur le sujet, par contre. Les candidats tels que Nicolas Sarkozy, François Hollande et Marine Le Pen sont les personnes qui ont reçu plus de couverture médiatique en Grande-Bretagne. Mmh. Donc les Anglais, de manière générale, viennent uniquement de découvrir qu'il existe d'autres candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, François Bayrou et Eva Joly et bien d'autres. Donc son opinion n'est pas concrète, tout comme moi d'ailleurs, car j'hésite encore entre qui, point d'interrogation, et qui voter. Malgré le doute, j'aime partager mes opinions avec l'audience de Bouche à Oreille ce soir.
Ah ben, on est bien content que tu sois là aussi.
Je vous en prie.
Alors, on a vu que tu es ici depuis 10 ans et tu n'as pas vraiment prévu de rentrer en France dans l'immédiat.
Non.
Alors, quel est l'intérêt de participer à ce scrutin pour toi?
Je suis française avant tout et je le resterai à vie. Donc, en tant que citoyenne française, je suis concernée par ce droit civique qui me permet d'exprimer mon opinion dans une démocratie. Et ce droit humain que certains n'ont pas, je le considère comme vraiment un privilège. J'ai toujours voté depuis ma majorité, à part peut-être lorsque j'ai vécu aux États-Unis.
D'accord. Et alors, il y en a certains qui pourraient dire, écoute Marie, tu ne payes pas tes impôts en France. Tu ne subiras peut-être jamais les conséquences de ton choix. Alors, est-ce que ça te pose un problème de conscience, en fait?
Non, absolument pas. Je ne me considère pas du tout comme une faussaire. J'ai conservé une résidence en France de par ma famille, donc je suis concernée de très près par la vie politique de la ville où je suis née et où j'y retourne fréquemment. Un jour, lorsque j'hériterai de cette propriété, j'espère le plus tard possible, je serai directement taxée, donc droit d'héritage, notaire, impôts locaux, impôts, etc. Donc au niveau bancaire, c'est la même chose. Si vous possédez des actions françaises ou un compte bancaire en France, vous êtes directement concerné par les décisions prises outre-Manche. Et puis, pour finir, un jour, nous serons peut-être amenés à nous aussi nous réinstaller définitivement en famille ou alors en couple retraité.
Pas grabataire quand même.
Non, pas grabataire, tout à fait. Ce qui touche ma famille et mes amis en France me touche aussi, tout naturellement.
D'accord, d'accord. Et alors, quel est ton sentiment très rapidement sur cette campagne? Alors, je veux rappeler quand même à nos auditeurs que les opinions exprimées sont celles de Marie et non celles de bouche à oreille, évidemment.
Absolument. Ah, tu peux te lâcher.
Lâche-toi.
Allez, je me lâche. J'ai pour trois options. Donc, la bataille usuelle droite-gauche, comme d'habitude, entre Sarkozy et Hollande. Mmh. Mais tous les deux ne m'attirent pas vraiment. Les nouveaux partis comme Mélenchon et Poutou, anticapitalistes, et Jacques Cheminade qui est contre tout. Mmh. J'inclus ici François Bayrou pour une France solidaire et pourquoi pas. Eva Joly, elle représente les écologiques, donc un parti un peu rêveur, mais il y a certaines idées qui ne sont pas trop mal. Et puis je ne voterai surtout pas pour le Front National avec Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière, ni Nicolas Dupont-Aignan qui est proche de Lavilliers. Donc voilà, bref, mon opinion, elle est encore ce soir indécise. J'ai trois jours pour aboutir à mes conclusions avant d'aller voter dimanche. Mais peut-être que je prendrai le risque de voter pour un des nouveaux partis de ma catégorie et au premier tour, et on verra les pourcentages avant d'aller pour le deuxième. Donc dur de faire un pronostic.
D'accord. Alors il nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est important pour nous de savoir, au-delà de ces élections, quel est ton sentiment d'attachement à la France, à la mère patrie?
La mère patrie, je suis citoyenne française expatriée. J'ai la possibilité de participer aux choix essentiels de la vie en France. Donc d'avoir un lien direct avec la famille, la vie économique, familiale, sociale, culturelle, sportive, internationale, de ma famille et proche et de mes amis en France comme à l'étranger. Et de m'intéresser aussi à mon pays de par la transmission d'un patrimoine qu'héritent mes enfants binationaux. Un jour, peut-être, ils auront aussi le désir de vivre en France, de partir et d'étudier. Donc voilà, le mot « legacy » est en ce moment est très à la mode en Angleterre, de par les Jeux Olympiques de Londres en juillet 2012. Et c'est bien cet héritage de patrimoine français que je voudrais léguer à mes enfants. Chez nous, l'esprit est sans frontières. Donc, avoir une vision de la France au-delà de notre territoire national et considérer la France par rapport aux autres pays, c'est vital. D'ailleurs, on ne peut pas se contenter d'avoir des œillères, surtout lorsqu'on a l'occasion de voyager et de vivre à l'étranger.
Alors, tu rejoins la conclusion de Serge, en fait, sur ce point. Alors, merci beaucoup pour ces réponses et pour être venu nous faire partager ton point de vue sur d'une Française à l'étranger.
Avec grand plaisir.
Donc nous arrivons maintenant à la fin de cette émission et j'espère que grâce à nos invités, vous en savez un peu plus sur les élections qui se dérouleront ce dimanche et le 6 mai prochain.
Voilà, alors nous voulons aussi vous rappeler que vous pouvez écouter nos émissions passées par podcast. Vous pouvez aller sur radioverlam.com et cliquer sur « Subscribe to our podcast » sur le menu déroulant au centre de l'écran. Nous vous invitons aussi à un débat intitulé « Your Questions Education Special » qui est organisé par Radio Verlam mardi 24 avril à partir de 19h à l'University of Hertfordshire. Il s'agit d'une soirée débat autour du thème de l'éducation au niveau national et local avec des intervenants politiques et des membres du corps éducatif. Ça promet d'être vraiment très instructif et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Radio Verlam, radioverlam.com.
Voilà, il ne nous reste plus qu'à remercier encore une fois nos deux invités de ce soir. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Bon vent.